Chapitre 8. Histoire de voleur. Dans l'intérieur, les conversations allaient se croisant. Les voyageurs venant de Vaujour continuaient leur entretien, commencé en traversant la forêt de Bondy. Ils étaient trois, une dame, un monsieur beau parleur et un monsieur taciturne. Ah, « c'est fini, disait la dame, toutes ces histoires de la forêt de Bondy, les voleurs sont maintenant dans les villes. »« Ah !» s'écria l'adjoint de livrée, pris entre deux colonnes de paquets. « Nous en sommes aux brigands, serviteur, madame Blot, comment cela va ?»«
Je ne vous avais pas remis, monsieur Tourangeau, et votre dame ?»«
Toujours ce rhumatisme, une boîte à douleurs. »
Vaujour est plus sain que Livry, s'écria madame Blot, abusant aussitôt de l'aveu.
Permettez, interrompit monsieur Tourangeau vivement, je prétends au contraire que Livry.
As-tu les poissons, Céleste?
Demanda Adolphe, dont le front gardait un nuage. Il pensait sans doute, les coquins m'ont coûté assez cher.
Mon Dieu, oui, j'ai les poissons, répondit madame Champion, à la torture sous l'abondance de son butin. J'ai tout. Ne trouvez-vous pas qu'on étouffe ici?
Les soirées sont fraîches, riposta madame Blot de Vaujour. Moi, je ne déteste pas la chaleur. Et l'adjoint continuant, pour la pureté de l'air, Livry est, Dieu merci, bien connu. Les meilleurs médecins de la capitale en conseillent le séjour aux poitrinaires.
« Eh bien, plaidait cependant le beau parleur, les brigands avaient du bon, cela mettait de l'émotion dans les voyages. On entendait soudain un coup de sifflet, jolie émotion, merci. Les hommes rassuraient les dames qui s'évanouissaient, et plus d'un suave roman d'amour a commencé.
« Ah, monsieur !» interrompit madame Blot, rentière et veuve de monsieur Blot, en son vivant huissier,
« épargnez-nous le reste !»
« Monsieur n'est pas de ces pays-ci ? » demanda insidieusement l'adjoint. « Je ne crois pas avoir eu encore l'honneur de voyager avec monsieur.
Je suis venu en flânant voir une propriété à vendre.
Celle du général, peut-être. Voilà un militaire qui avait un bien bel avenir dans l'armée. Bel homme, bien conservé, de la fortune. »
« Et pas d'héritier, dit Adolphe. Un pêcheur assez distingué, du reste. »
Ce sera vendu à bon compte, ce bien-là. Les cousins de province ont hâte de dépecer la succession.
Un charcutier de Caen, dit-on,
et un nourricier de Bayeux. Le général était normand.
Ah, les normands.
Ne dites rien de désagréable, prévint Céleste. Monsieur Champion est de Domfront natif.
Quand je dis pêcheur assez distingué, je m'entends, reprit ce dernier, je m'entends. Jamais il n'a fait de grands coups, de ces coups mémorables.
Parlez-moi de la pêche en mer, s'écria l'adjoint. J'ai un parent à Dieppe qui m'envoie des homards. Il les prend tout frais.
Et cela m'arrive.
Gâté, acheva madame Blot qui était agaçante.
Adolphe, dit tout bas madame Champion. Vois dans ma poche si j'ai ma boîte. »
Mais Adolphe répondait, « Il y a dans nos fleuves des produits en quelque sorte supérieurs à ceux de l'océan lui-même. »
Le beau parleur, « Les chemins de fer ont tué le côté pittoresque des voyages, c'est la vie de tous les penseurs. »
« Monsieur, lui dit l'adjoint, à propos de chemin de fer, nous allons en avoir un dans ce pays-ci, et pour peu que vous ayez sérieusement l'idée d'acquérir une propriété, je vous engage à vous hâter, car le terrain monte, monte. Voici le baron Schwartz, par exemple, dont vous avez sans doute entendu parler.
Je crois bien. Il n'est pas très aimé dans ce pays-ci, vous savez. »
Monsieur, interrompit Adolphe avec fierté, des querelles funestes ont commencé ainsi par imprudence. J'ai l'honneur d'être le sous-caissier principal de la maison Schwartz.
On peut bien dire que cet homme-là n'a pas pris dans le pays, riposta aigrement madame Blot. Mais l'adjoint conciliant, monsieur a raison de défendre son administration, loin de moi la pensée de parler avec légèreté d'un propriétaire de cette importance. Il m'invite à ses soirées. Ce que j'allais ajouter fait son éloge. En effet, grâce au chemin de fer projeté, auquel il n'est pas étranger, on offre à monsieur le baron Schwartz maintenant 1 450 000 francs de sa terre. Et voici 3 ou 4 ans, il l'avait acheté 600 000. 120% en 4 ans, c'est sévère. Ah, c'est joli, mon pauvre Blot, a-t-il assez protesté pour cet homme-là? Moi, je trouve que la vapeur est une bien belle invention. J'étouffe positivement, gémit Céleste en tournant un regard vers la portière close. Les soirées sont fraîches, constata Madame Blot. Je préfère avoir chaud que de gagner un catarrhe. Et comme le disait si bien Madame, ajouta le beau parleur en saluant de nouveau la rentière, Paris est devenu le rendez-vous de tous les malfaiteurs expulsés de nos campagnes. Paris est une forêt, la forêt noire en vérité. L'année dernière, en plein omnibus, on m'a volé une tabatière d'argent. Ici, Madame Blot, rentière, atteignit sa boîte et Céleste lui dit « Voulez-vous permettre, madame, je suis si embarrassée que je ne peux pas prendre la mienne. Et vous savez, quand on a l'habitude... Comment donc, madame ?» Tous ceux qui faisaient usage de tabac en poudre se satisfirent aux dépens de Madame Blot, excepté le monsieur taciturne qui, à la sournoise, puisa une large prise dans un cornet de papier. « Elle était moins belle que celle-ci, reprit Madame Blot en refermant sa boîte, mais j'y tenais, à cause que mon pauvre Blot, qui me l'avait acheté, quoiqu'il désapprouvât le tabac chez les dames. « Celle de ma femme coûte 80 francs, déclara Adolphe, en fabrique. Prends garde aux poissons, Madame Champion. » « La forêt noire, répéta le beau parleur, c'est le mot. » Et voyez comme il existe en toute chose une sorte de fatalité. Paris a commencé par être une forêt. « Pas possible !» s'écria la rentière. « Si fait, madame, affirma l'adjoint, la forêt de Bondy, ou plutôt de Livry, dont nous traversons les restes. Une forêt, rien qu'une forêt, on chassait le cerf et le sanglier, rue de Richelieu. » « La pêche, désormais, y est seule possible, dit Adolphe, le long du fleuve. » Et à la place où est maintenant la bourse, des bandes de brigands effrontés. » Tout le monde éclata de rire. Quelles qu'elles soient, les plaisanteries qui attaquent la bourse ont toujours un énorme succès. « Ah !» s'écria la rentière, « mon pauvre Blot avait de ces mots sur la bourse. »« La bourse ou la vie ?» risqua Adolphe, qui n'était pas dépourvu de mémoire. Céleste dégagea une de ses mains pour lui pincer le genou en témoignage d'admiration. « Veille aux poissons !» recommanda Adolphe. « C'est pour vous dire, continua le beau parleur, que rien ne change. La forêt de Paris existe toujours, moins les arbres. On y trouve des cerfs en quantité, à en croire le vaudeville, des sangliers à foison, sauvages ou domestiques, des serpents, qui le niera. Il y a aussi des roses pour les cacher, des oiseaux charmants qui chantent à tous les étages de toutes les maisons, les gais refrains de la jeunesse. Il y a bien quelques différences. Dans les forêts, l'amour ne fait des siennes qu'au printemps. Et ici, c'est un roucoulement des quatre saisons. Vous êtes léger dans vos paroles, monsieur, devant les dames. Ces huissières le sont parfois dans leurs actions, Madame Blot de Vaujours n'eut pas pour elle la majorité, qui protesta « mais non, c'est amusant, cette machine-là, allez toujours !» Et voyez en revanche combien de ressemblances, les loups abondent. Tous réfugiés à Paris, les loups. « Monsieur, dit Tourangeau, je serais flatté de votre connaissance si vous achetiez quelque chose dans ce pays-ci. » Dans une forêt, il faut des gardes-chasse. Nous avons les sergents de ville. Et les braconniers. Et les chiffonniers qui ramassent le bois mort. Et les Anglais, touristes, comme à Fontainebleau. Il s'exprime avec élégance, ce monsieur, dit Céleste. Adolphe, c'est un homme bien. Adolphe répondit, trop bavard, et tiens bien le poisson. Quant aux bandits eux-mêmes, reprit le voyageur éloquent, quelle forêt peut se vanter d'une collection pareille à celle de Paris? On parle de Sénart et de Villers-Cotterêts. C'est une pitié, la forêt de Paris les mettrait dans sa poche. Jolie société. Vous souvenez-vous, mesdames, de la bande Montrose? Ah, le coquin, s'écria Céleste, c'était à l'époque de mon mariage. Adolphe pêchait moins souvent. Le poisson, dit Monsieur Champion, prends garde. Et les Nathans, poursuivit l'érudit voyageur, côté des dames, Ninette et Rosine, nous avons un auteur qui fait ces choses-là bien adroitement, Monsieur de Balzac, lisez Vautrin. Il doit avoir quelques connaissances au fond des taillis. Toujours côté des dames, Lina Mondor, voilà une dégourdie, et Clara Wendel, on fait des drames là-dessus. Ça flatte beaucoup ces gens-là, quand on les met au théâtre. Mais c'est depuis Louis-Philippe que la forêt se peuple. Vertu bleue, en 1833, la bande Garnier, 75 d'un coup, la bande Châtelain, les casse-têtes et les chaussons de lisière pour ne pas faire un bruit sur le pavé. Il y a deux hommes en haut avec des chaussons de lisière, interrompit Madame Champion. Elle fait preuve à chaque instant d'un véritable esprit d'observation, dit Adolphe. Ne lâche pas le poisson. L'adjoint fouillait sa mémoire, car il était bien jaloux du voyageur d'Isère. Il y a la bande Hugues, accoucha-t-il. Le 55, égrena l'huissier. La bande Shiva, la bande Jamais, la bande Dagori. L'homme taciturne éternua. C'était le premier bruit qu'il faisait. Il mit la main à sa poche pour atteindre son mouchoir et resta tout penaud. Le mouchoir était absent. « Vous l'aurez perdu, monsieur, lui dit l'adjoint, car il n'y a pas de voleur dans ce pays-ci. » Nous n'irons pas jusqu'à dire comment on se mouche quand on n'a pas de mouchoir. Le voyageur muet en fut réduit à cette extrémité. Les deux dames sourirent. La rentière développa un vaste foulard tout neuf, et Céleste dit « Adolphe, donne-moi le mien. » Ce que fit Adolphe, à condition qu'elle prît garde au poisson. L'espèce humaine est cruelle. La voiture entière se moucha. Le voyageur silencieux ne parut pas humilié. L'inconnu, à la langue bien pendue, continuait. Ah, « quelle forêt! 73 condamnations pour la bande Carpentier, et pour parler d'hier seulement, Courvoisier, Mignard, Gautier, Souk, Chapon, qui menaient plus de 200 soldats à la bataille, les escarpes de Pullman, les Vanterniers de Marchetti, et ceux qui ne sont pas encore sous la main de la justice, la plus belle bande de tous, ces fameux habits noirs qui ont leurs soldats dans la fange des bas quartiers et leurs généraux dans les plus hautes régions sociales. Le journal n'en dit rien, interrompit la rentière. C'est défendu, crainte d'effrayer le commerce. La vérité, c'est qu'ils travaillent en grand et que la police n'y voit que du feu. On dit qu'ils sont protégés de haut. Et que la justice a peur d'eux. Comment, comment? S'écria Madame Champion, qui écoutait bouche béante. Mais savez-vous que ça fait frémir? Quand on me paierait, déclara Monsieur Tourangeau, je n'habiterai pas à ce Paris. Adolphe se permit de hausser les épaules. Je suis sous-caissier, dit-il, avec cette importance sereine qui le rendait si cher à Céleste, sous-caissier principal, et comme notre caissier en chef est un gentilhomme qui la passe douce, c'est moi qui ai toute la responsabilité, moi seul, et c'est assez. Attention aux poissons. Notre maison, vous le savez, est une des plus conséquentes de la capitale. Nous habitons un quartier désert et qui passe pour être assez dangereux. Notez ces diverses circonstances. Parmi les causes célèbres que vous venez d'énumérer, le nom de la rue d'Enghien a plus d'une fois retenti dans l'enceinte de la justice criminelle. Ça ne fait rien. Prenez un homme intelligent, instruit, prudent, adroit et courageux, il réussira dans la comptabilité comme dans l'art de la pêche, qui adoucit sensiblement les mœurs comme la musique. Pardon, j'ai la parole. Je disais donc que je me moque des bandes, moi comme de l'an 40. Il n'y a pas plus fin que le poisson qui doit ses instincts à la nature. Celui qui s'adonne depuis longtemps à la pêche, le poisson lui enseigne mieux. mille ruses innocentes qu'il apporte dans sa vie privée. Je mettrais au défi Mandrin, Cartouche et même ces habits noirs dont vous parlez de me piquer seulement un rouleau de mille dans mon entresol. Oh, s'écria l'adjoint de Livry, heureusement qu'ils ne sont pas là pour vous répondre. Devant eux, reprit finement Adolphe, je ne communiquerai pas les détails que je vais donner librement entre gens comme il faut. Soutiens le poisson, madame Champion. Ah, nous voici abondis, tenez. La voiture venait de s'arrêter. Deux ou trois malheureux se présentèrent avec leurs paniers, mais le terrible mot « complet » tomba de la niche du conducteur, à qui la servante du cabaret apporta ce verre d'eau-de-vie que tout conducteur, sachant son métier, siffle pour aider les chevaux à souffler. Échalot et Similor chantaient sur l'impérial. On convint d'éviter leur contact à l'arrivée, parce qu'ils portaient des chaussons de lisière. Ces histoires de voleurs laissent toujours quelque chose dans l'esprit des plus intrépides. Céleste, qui tenait les goujons à bout de bras pour conserver leur fraîcheur, demanda humblement qu'on entr'ouvît enfin une portière, mais l'huissière se souvenait de son pauvre blot qui abhorrait les courants d'air. « Je ne renonce pas à la parole, » reprit Adolphe aussitôt que la voiture marcha de nouveau. « Je suis officier de la garde civique. » Pour ceux que je n'ai pas l'honneur de connaître ici, j'occupe l'entresol de l'hôtel Schwartz, rue d'Enghien 19 à Paris, concurremment avec le caissier des titres. Cela fait deux intérieurs distincts. Mais il ne s'agit pas de cela. J'ai dit que je défiais Mandrin et Cartouche. J'y ajoute Poulabier, Barabas et Lassner. Je suis comme cela. Voilà mes armes. Je n'en fais pas mystère. D'abord, j'ai une maison de campagne où je ne couche jamais. C'est le domicile de mes lignes. Et les trois quarts et demi des malheurs viennent de cette faiblesse qu'ont les bourgeois de Paris de coucher à la campagne. La porte de l'hôtel Schwartz ne peut s'ouvrir sans qu'un timbre sonne dans mon antichambre. Le second timbre, communiquant avec la porte de mon antichambre, sonne dès que celle-ci s'ouvre. Second éveil, le premier vaut dire « garde à vous », le second « portez armes ». Et ce n'est pas tout, un troisième timbre battant tout contre mon oreille dans la ruelle de mon lit teinte aussitôt que la porte de mon salon est touchée. Messieurs et mesdames, le premier timbre m'a mis sur mon séant, le second sur mes pieds, le troisième me crie « champion, défends les diverses valeurs confiées à ta vigilance ». C'est très curieux, cela, fit l'adjoint Livry. Très curieux, répéta le beau parleur, qui échangeait, ma foi, des regards avec l'huissière. Le voyageur taciturne prit dans sa poche avec gravité un crayon et du papier sur lequel il écrivit une douzaine de mots. C'est un poète, murmura l'homme éloquent d'un ton moqueur. L'adjoint répondit sérieusement, « Monsieur, ça ne me surprend pas, nous en avons plusieurs dans ce pays-ci. »